Yeah, 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 bonjour, lundi 8 janvier 2024, et eh ben oui, c'est bien ça, 2024, hein, ça fait bizarre, hein. Mais pourtant, il va falloir s'y faire pendant tout le reste de l'année, mais oui. Alors, et eh ben, bah déjà, ça fait du bien d'être là, vous ne retrouverez pas Sophie aujourd'hui. Elle accuse un mauvais coup du sort et c'est son oreiller qui va passer la journée avec elle. Néanmoins, j'ai quand même eu la chance de la croiser ce matin. Elle vous envoie plein de vœux et plein de bises. Rassurez-vous, elle vous aura préparé une petite émission très sympa que vous allez voir dans la deuxième moitié de L'Onde Curieuse. Ce sera un reportage interview sur les Restos du Cœur d'Aubenas. Vous aurez aussi bien sûr les infos. Mais en attendant, eh ben on va commencer par ben le traditionnel, je sais pas si on peut dire ça, l'épisode des vœux, enfin la célébration des vœux, la commémoration des vœux, non c'est pas ça encore. Enfin bref, le truc des vœux. Alors ouais, alors moi j'ai regardé les vœux de, alors quand même on a une référence fantastique quand même, les vœux du président de la République française. Bref, Jupiter 1er exprimait sa gratitude à ceux qui protègent, soignent, c'est quoi ensuite ? Assurent la continuité de la nation. Ça, c'est sûr que c'est pas lui qui fait tout ça. 2023, il nous parlait de la guerre en Ukraine. Ça a dû le choquer, bah, vu que forcément, c'est les Ricains et les Britanniques qui ont décroché le marché pour leur vendre des armes. Ça a dû en foutre un coup, le pauvre. Il nous parle du Proche-Orient de Gaza. Mais bon, de toute façon, à subir ce que fait son grand allié, les USA, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'il y a des tensions un peu géopolitiques. Attention, vous avez peut-être rendu compte. Qu'il s'inquiète des conséquences du dérèglement climatique sur notre territoire. Ça fait tant, ça fait 50 ans qu'on nous dit que ça va arriver. Bref, tout un tas de trucs. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'était... qu'il avait peur du déclassement et de la perte de contrôle. Enfin, j'ai pas tout compris à son truc. Je me demande s'il vit dans le même monde que nous, en fait. Faudrait qu'il vienne vivre en Ardèche pour voir, mais non, je crois que ça, c'est pas une bonne idée. Bref. Allons-y. Toujours est-il qu'en 2024, la France prévoit des belles choses, entre autres des magnifiques Jeux Olympiques. Ouais, super. Les Parisiens sont contents. Alors, en ce moment, il y a tous les travailleurs clandestins qui, du coup, sont clandestins, mais ils ont le droit de travailler pour faire les JO, quand même. Et chercher l'erreur, comme diraient nos amis de Solidaires d'abord, entre autres. Et donc, bref, ça va être encore la grande messe du sport, du béton, 15 000 sportifs attendus, plus plein de trajets en avion, machin et tout. C'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup le sport, mais les Jeux Olympiques, pour moi, c'est comme les mondiales du foot chez les pays qataris, ce que entre autres avait été nommé comme la Coupe du Monde de la honte. Mais on est très fort, on peut aller encore très très fort là-dedans. Bref, et on a surtout le truc rigolo, il faut continuer l'écologie à la française. Alors ça, je sais pas de quoi il parle. Tous les experts là-dedans non plus. On se pose des questions. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils voulaient continuer à planifier tout un tas de choses et pour entre autres sortir des énergies fossiles, gagner plus d'indépendance et de progrès. Alléluia. Juste un petit truc sur l'énergie fossile. Ça fait 10-20 ans que des mecs comme Al Gore, machin et autres nous vendent le sortir des énergies fossiles en allant sur le photovoltaïque, etc. Qui consomme genre 5 à 10 fois plus que d'énergie fossile pour le faire. Que les énergies fossiles elles-mêmes. Donc il y a plein de bonnes choses à faire, à mettre en place. Méfiez-vous des discours qui mènent pas à grand-chose. Prenons sur nous et tout ira bien dans la joie et la bonne humeur. Enfin bref, en tout cas, Jupiter nous souhaite une France plus forte et plus juste au milieu de tous les blablabla. Bref, amen, alléluia. J'ai regardé les vœux de Poutine, c'était pas mal non plus. Les vœux de Xi Jinping pour la Chine, c'est encore d'un autre ordre. Je me suis retourné, du coup, vers quelque chose de très intéressant, les vœux du Dalai Lama. Eh ben oui, il nous reste encore un. Alors lui, c'est encore très simple et c'est pas mal. Déjà, il remercie pour tous les vœux qu'on lui a envoyés. Et il renvoie en retour des vœux à toutes et à tous à travers le monde. C'est déjà pas mal. Il exprime entre autres une petite phrase, malgré les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il a bon espoir qu'en comprenant mieux à quel point nous sommes toutes et tous interconnectés dans l'unité du vivant, eh ben, nous pourrons nous consacrer mieux à mener une vie pleine de sens et tenter de créer un monde meilleur. Il rajoute que nous avons tous le même désir de vivre heureux, sans violence ni souffrance, et que il serait intéressant de travailler pour le bien des autres, et que si nous ne pouvons pas les aider, au moins nous pouvons nous assurer de ne pas leur faire de mal. Voilà les vœux les plus intelligents que j'ai trouvés pour cette année. Là-dessus, nous, on va continuer aussi. Les vœux de Fréquence 7 pour 2024. Eh ben, on vous souhaite tout un tas de belles émotions avec du partage, de la chaleur, pas celle du réchauffement climatique, là, l'autre, là, la chaleur humaine, celle qui fait du bien, la joie, la surprise, les bonnes surprises, cette petite teinte de folie douce, et aussi de pouvoir découvrir et de redécouvrir mille et une merveilles qu'il y a en ce monde, qui nous font pétiller les yeux de ces petits bonheurs simples qui se saisissent tout naturellement en souriant. Voilà. Alors, on vous envoie tout un tas de bonnes ondes, comme chaque année, tout un tas de bonnes musiques pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble, haut et fort, au moins jusqu'en 2025. Merci Sylvain qui est là derrière aussi, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Tu passes un bon réveillon?
Oui.
Ouais, on s'est régalé. Hein.
Ah, moi j'étais branché sur Fréquence 7 sur le réveillon, écoute, je me suis régalé.
Ouais, bah, nous on a fait la même et c'était bien sympa, ouais. Ouais, et ben voilà, merci, je sais pas que tu avais composé une petite chanson sympa juste pour nous là.
Un petit remix. Cool.
Un petit remix. Ben ouais, ça fait un peu un classique, mais bon, rappelons-nous, osons imaginer un monde meilleur, continuons. Allez, pour les infos, nous, dans cette petite fratrie république indépendante d'Ardèche, en 2024, on peut rêver, hein. Pas mal d'infos, vous pourrez demain aller au café associatif La Petite Bulle de Prades. Il y aura une réunion qui est sur le thème de « Qu'est-ce que le low-tech ?». C'est donc demain mardi 9 janvier de 15h à 17h. Pas mal. Vous pourrez aller aussi mercredi au Pas de Côté à Mercué pour retrouver la Bibli des Lunes. Ouais, la Bibli des Lunes. Vous connaissez pas encore la bibliothèque itinérante sur le thème, la thématique du féminisme, pardon, et de ses luttes? Eh ben, ce sera l'occasion. Ça se passe donc à Mercué. Ce sera mercredi 10 janvier de 17h à 19h. Alors, ça peut paraître un peu féministe, c'est marrant, quand on en parle, ça fait un peu encore grincer et tout. Bah ouais, on a encore du mal à sortir de quelques millions d'années où les femmes, les mères, la matrice de la vie ont un peu pris cher. Alors du coup, ça nous fait un peu grincer les dents des fois à sortir de là. Mais moi, je vous conseille d'y aller. Ça nous permet un peu de rééquilibrer un peu notre rapport homme-femme, etc. C'est tout à fait intéressant. Aussi, une nouvelle qui faisait la une du journal aujourd'hui. C'est sur le tri des déchets. Selon les études, en Ardèche, vous êtes très performant sur le tri. Bravo. Après, ben maintenant, ça fait 20 ans que cela est rentré dans nos us et coutumes. Et en Ardèche, c'est 89,5 kilos par personne qui sont triés chaque année. Pas mal. La moyenne en France, c'est 72 kilos par personne et 73 kilos pour la région de Rhône-Alpes. Donc, continuons. Il y a quand même du chemin à faire encore. Il y a encore pas mal de pistes de réflexion. 40% des bouteilles plastiques produites ne sont pas triées. Il y a une baisse du recyclage du papier, mais ça c'est plutôt un bon signe, ce serait dû à la baisse de l'usage du papier, vu que de plus en plus de monde depuis 2-3 ans vont sur la dématérialisation de leurs documents, et qu'a priori ce serait vu sur une bonne chose. Je dis a priori parce qu'il faut voir comment c'est compensé. Alors on met le doigt un peu sur les 18-25 ans qui négligeraient un peu plus le tri. Bon, j'ai envie de dire, c'est une vieille habitude. Dans ce pays, on a vite fait de mettre le doigt sur les 18-25 ans, les pauvres. Moi, j'ai envie de dire qu'ils ont encore de la marge. Que le tri, ça se fait à la maison, au travail, mais aussi quand on est en dehors de chez soi. Et qu'en 2024, on a maintenant le compostage obligatoire. Eh ouais. Dans nos ordures ménagères, on est à peu près à 214 kilos par habitant, dont 91 kilos qui pourraient être encore recyclés, 14 kilos qui pourraient être amenés à la déchetterie et 47 kilos qui sont de la matière organique. Donc on peut encore regarder un peu mieux que ça nos déchets, ça nous permettra d'encore mieux trier. Mais n'oubliez pas, comme le rappellent un peu les responsables des centres de tri, la responsabilité des déchets incombe, ou en tout cas devrait incomber d'abord, à celui qui le produit. J'entends par là l'industrie qui nous produit tout un tas d'emballages et de plastiques et de pollutions diverses. À ce propos, je vous rappelle que notre magnifique partenaire des Jeux Olympiques 2024, Coca-Cola, est à lui seul un magnifique exemple. Et que les vendeurs d'eau minérale ne produisent pas d'eau minérale, ils la prennent dans la nature. Par contre, ils produisent des millions et des millions de kilos de bouteilles plastiques. Bref, faites attention, soyons vigilants et surtout ouvrons notre esprit un peu à fonctionner différemment. Et pour que ce soit pas nous qui soyons obligés de toujours faire la chose. Voilà pour les infos du jour. Vous retrouverez demain les infos qui seront distillées par Marie au compte-gouttes, comme elle sait le faire. Pour l'heure, on va faire un petit tour en musique sur une autre révolution. C'est le Irecha, funk Afrobeat Orchestra. Donc c'est un groupe qui nous vient du Brésil. Et pour les vœux de 2024, on va commencer directement par une Afro-Funk Revolution. Yeah. Alors, nous y voilà, de retour dans l'Onde Curieuse. Et aujourd'hui, Sophie nous a préparé une interview-reportage avec Myriam Vérinche, qui est directrice de l'antenne locale d'Aubenas, et Olivier Dubrulle, qui est le responsable du centre itinérant des Restos du Cœur.
Et nous retrouvons nos deux invités, Myriam Vérinche, responsable de l'antenne locale des Restos du Cœur d'Aubenas, et Olivier Dubrulle, responsable du centre itinérant. Bonjour.
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 Avec vous deux, donc, nous allons parler de la situation des Restos du Cœur à Aubenas, en Ardache, et puis aussi de la situation du don, en fait, du don de manière plus générale. Je vais simplement commencer par quelques chiffres qui ne disent absolument rien de la réalité qui se cache derrière, c'est-à-dire du désarroi, de la souffrance, de la honte, de la colère, de ne pas pouvoir se nourrir, et encore moins de bien se nourrir, de dépendre du don sans pouvoir rendre l'appareil, de dépendre, tout simplement. Dans notre pays, 8 millions de personnes recourent à l'aide alimentaire, et de 10 à 11 millions de concitoyens, 10 millions selon la Fondation de l'Abbé Pierre, 11 millions selon Oxfam, vivent dans la pauvreté, ce qui laisse un delta d'environ 2 à 3 millions de personnes qui restent potentiellement sans recours, ça c'est une chose. Parallèlement, on jette de quoi nourrir 11 millions de personnes. Voilà, ce sont des chiffres au niveau national. Vous êtes... vous deux ici représentants des Restos du Cœur, mais toutes les associations, Secours oui. Populaire, Secours Catholique, Fondation Abbé Pierre, etc., partent du même font le même constat, c'est-à-dire que la pauvreté augmente,
bien sûr,
les besoins augmentent et il y a de moins en moins de possibilités de répondre à ces demandes. Ça, c'est un constat au niveau national, mais je vais vous laisser la parole pour s'agissant de ce qui se passe au niveau local. Myriam.
Oui, au niveau local, on a la précarité, elle y est aussi, hein, sur Aubenas, bien sûr, sur l'itinérant pareil. On a eu une augmentation depuis 3 ans, on augmente à peu près de 25 à 30% le nombre des familles, c'est énorme.
Ce qui représente combien de familles, par exemple
Ce qui représente actuellement, pour la base de cette campagne d'hiver, on en est déjà à 350 familles d'inscrites. Familles, donc on multiplie à peu près par 2,5 pour le nombre de personnes, c'est énorme. Donc on sait qu'on va être en augmentation, hein, sachant que bon, on en laisse bien sûr, on refuse à certaines personnes aussi. Parce que bon, on peut pas accepter tout le monde aussi, donc on reste sur des barèmes d'été pour l'instant, par rapport à l'association, les difficultés qu'on a.
Et, alors, on va justement, parlons de ça et disons ce que sont ces barèmes d'été pour que les gens le comprennent. C'est pas de votre fait, c'est pas au niveau local, c'est au niveau national.
Hein, non, ça c'est au niveau national.
Le porte-parole au niveau national avait alerté sur le fait que, avait alerté déjà dès septembre en disant que il manquait des moyens parce que les demandes sont plus importantes, parce que les frais aussi de fonctionnement ont beaucoup augmenté, s'agissant de l'électricité, du carburant.
Du carburant aussi,
c'est clair. Ouais, on va en parler avec vous.
Là, on subit l'inflation aussi. Hein.
Et l'inflation.
Parce que bon, on achète nos denrées, bien sûr. Hein, alors quand pour le litre de lait, par exemple, qui a doublé, on le subit aussi au niveau de l'association, parce qu'on achète carrément toutes nos denrées.
Alors, ça c'est quelque chose d'important que les gens ne savent pas forcément. On ne sait pas très bien comment vous fonctionnez, puisque il y a des... annuellement, au mois de...
Mars,
voilà, vous faites une grande campagne pour récolter des dons.
Oui, c'est une grande collecte.
Une grande collecte, oui. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. Vous ne vivez pas, enfin, vous ne procurez pas de l'aide alimentaire que grâce à ça. Non. Mais comme vous dites...
Non, cette grande collecte qu'on fait au mois de mars et qui marche très bien d'ailleurs, parce que les gens sont très donateurs et ils font ce qu'il faut pour donner aussi. Du coup, cette grande collecte nous sert aussi à pallier ce qu'on appelle la campagne d'été, qui est du 15 mars à peu près jusqu'à la fin novembre. Donc c'est là où l'association nationale en achète moins. Donc voilà, on se sert de cette collecte dans tous les centres des Restos du Cœur, que ce soit régional ou départemental. Et après, au niveau de l'hiver, bon, donc on n'a plus de denrées. Et là, c'est là où on achète énormément. Et vous le national achète pour pallier à toutes les denrées de tous les centres de France. Voilà.
Et vous achetez à des tarifs spécifiques ?
Je suis pas très certaine de bien répondre, mais je pense qu'il y a certains tarifs, mais préférentiels certainement. Mais la quantité fait qu'elle augmente chaque année aussi. Donc du coup, bon, le déficit annoncé par rapport à notre directeur, notre responsable national, c'est sûr que bon, voilà, il est énorme. Et voilà.
Et pour le carburant, vous vouliez réagir, ouais, Olivier ?
Non, bah, je voulais dire obligatoirement que nous, avec l'itinérant, en fait, on se déplace toutes les semaines dans la montagne. Donc obligatoirement il y a un coût supplémentaire et puis bah, il y avait l'investissement du véhicule qui nous avait été offert par Lidl. Donc ça heureusement, parce que si on avait dû investir nous-mêmes dans un véhicule, ça serait impossible quoi. Parce qu'il faut savoir que sur Aubenas, en fait, on n'a pas de revenus propres. On ne peut pas, même quand on fait on ne fait pas de collecte, rien du tout. C'est ça ne peut être que des dons. Par exemple, là, Myriam ne contredira pas, en ce moment, on fait les cadeaux pour la FNAC, mais cet argent, je veux dire, ça va être des petites... je veux dire, on doit acheter nos papiers, par exemple, pour imprimer, tout ça, c'est un coût, et on n'a pas de subvention pécuniaire. Donc, il faut se débrouiller, pour tenir, la saison à chaque fois, que ce soit la saison d'hiver ou la saison d'été.
Pour rebondir sur cette itinérance, comment ça fonctionne et quel territoire vous desservez ?
En fait, on dessert donc tous les 15 jours deux communes. Donc sur le plateau, on a Coucouron et Saint-Cirq-en-Montagne, qui représentent actuellement plus de 40 familles. Et après, donc, on a une deuxième tournée. La semaine suivante, c'est Jaujac et Montpezat. Donc là, on part, en fait, on prépare nos colis d'avance au centre. Donc les colis sont préparés par rapport au nombre de familles que l'on a et au nombre de personnes. Et donc après on part dans la montagne, et, les communes nous prêtent des locaux et on fait une distribution. Les gens viennent un peu dans le même système qu'au centre avec leurs cartes. Et donc tous les 15 jours ils ont en fait de quoi pas faire leur repas. C'est juste un complément et il est de plus en plus difficile parce que bon... Je veux dire, moi, je suis arrivé dans les restos il y a 3 ans. On distribuait énormément de produits frais. On avait des légumes, des choses comme ça. Et il y a des fois, même nous, on a honte, de ne pas pouvoir leur donner. On se retrouve avec 20 kilos de pommes de terre pour une cinquantaine de personnes. On compte 2 pommes de terre par personne. Mais bon, je veux dire, on a que ça, quoi. Donc, on n'a pas d'autre choix.
D'où ce que vous disiez, Myriam, le fait de devoir réduire les dons et de vous fonder non plus sur des barèmes d'hiver, mais continuer sur des barèmes d'été. Est-ce que oui. Vous pouvez nous expliquer cela ?
Disons que le barème, au niveau des Restos du Cœur, avant, on fonctionnait sur un barème d'hiver. Et qui durait 4 mois, c'est-à-dire de fin novembre jusqu'à la mi-mars. Et après, sur un barème d'été, qui est du 15 mars jusqu'à fin novembre. Et du coup, le barème d'été est en fait 30% de moins que le barème d'hiver. Mais par contre, par rapport à la situation nationale, il a été décidé de prendre des mesures... comme quoi, cette campagne d'hiver, on resterait sur le barème d'été jusqu'en novembre 2024, pour essayer de pallier et que l'association des Restos du Cœur continue surtout. Voilà.
Pour ne pas se retrouver, un mois avant la fin de l'hiver, à ne plus rien avoir à distribuer.
C'est ça.
Il était un peu ça. Après, le barème d'été, il était calculé forcément parce qu'il y avait moins de charges d'électricité. Donc, les gens, normalement, s'en sortaient un peu mieux. Après, les gens avaient leur jardin, pour une partie. Donc ça passait, quoi, que maintenant...
Parce que justement, comment sont calculés les barèmes?
C'est un reste à vivre, en fait. Voilà, c'est un peu ça. J'irai en... Donc là, c'est national, hein, c'est pas nous qui décidons. Mmh. Et voilà, donc ça, c'est changeant selon s'il y a des enfants, si après il peut y avoir des situations qui évoluent différemment. Je veux dire, quelqu'un qui perd son emploi. Après, si on repart, si je donne notre exemple au niveau de l'itinérant, par exemple, il y avait des gens qui pouvaient venir, qui pouvaient descendre à Aubenas. Mais maintenant, avec le prix du carburant, l'aller-retour, c'est 100 km, c'est 15 euros, quoi. Donc, il y a des gens qui ne peuvent plus. On sent que c'est quand même de plus en plus compliqué. Et là, en tout à chacun, on sait que l'électricité est en train d'augmenter. Pour la plupart, on n'a pas encore le contre-coup de ça. On l'aura certainement en début d'année ou même au printemps. Et les gens ne font pas attention. Et quand ça va tomber, malheureusement, ça va encore créer de la précarité, c'est sûr. Mmh.
Est-ce que vous avez des nouvelles on dit de manière sociologique, mais des nouveaux profils de personnes, ou est-ce qu'il y a des personnes que vous ne voyiez pas venir au Resto du Cœur et que maintenant vous venez, vous voyez venir?
Oui, on a des profils de gens qui travaillent et qui viennent maintenant au Resto du Cœur, ce qui est très très difficile à gérer puis à voir, parce qu'on se rend compte que les gens, ils arrivent plus du tout à vivre de leur salaire parce qu'ils ont des petits contrats précaires. Ne serait-ce que des contrats de mi-temps ou de 75%, ça permet plus de vivre maintenant. Mmh. Donc on les voit arriver maintenant au Resto du Cœur.
Et on parle aussi beaucoup des jeunes. Alors il n'y a pas de fac ici, mais non. Par contre il y a des écoles. Voilà, exactement. Je pensais à l'école d'infirmières. Ah, oui. Et vous voyez venir.
Oui. Alors déjà l'école d'infirmières, je sais qu'on les a. On a aidé pas mal de petites jeunes qui sont à l'école d'infirmières là, et heureusement, parce que elles auraient arrêté.
Mmh. Non, pardon,
elles auraient, ouais. Mmh.
C'est sidérant d'être là à cette table et de parler de cela, ici en France. En Ardèche, précisément. On souligne là l'extrême vulnérabilité, l'extrême précarité de ces personnes. Mais j'imagine que pour des bénévoles comme vous deux, qui êtes, alors j'ai entendu depuis 3 ans Olivier, et vous Myriam depuis plus longtemps.
Un petit peu plus, oui. Une dizaine d'années.
Comment on fait? Parce que j'imagine que pour vous aussi, ça doit être extrêmement difficile d'être au quotidien face à cette pauvreté, et plus encore que ça, face à la violence de ne pas pouvoir aider à la juste mesure de ce qui serait nécessaire, ces personnes.
C'est très compliqué. Non, on fait beaucoup je sais quand même avec Olivier, on fait beaucoup d'inscriptions, et quand on est obligé de dire non à certaines catégories de personnes ou de familles, c'est déchirant. On a beaucoup de mal. Là, cette campagne, elle est très, très dure pour nous.
Oui, elle est difficile. Et puis
on essaye.
Ouais. Et on parlait des jeunes étudiants, mais il y a aussi des personnes âgées avec des cas de figure. Où moi, j'étais dans le commerce avant. Et donc, il y a eu une période où le couple, il y avait la femme qui était conjoint collaborateur et qui ne cotisait pas pour sa retraite. Et on retrouve en fait des personnes qui se retrouvent à la retraite avec des sommes dérisoires, malgré qu'elles aient travaillé toute leur vie avec leur mari. Mais comme elles n'avaient pas été, elles n'ont pas eu, comptabiliser leur trimestre, se retrouvent avec moins de 500 euros de retraite. Et c'est très pénible, parce que sont des gens qui vivaient correctement du temps où elles travaillaient et qui se retrouvent à la retraite avec très peu. Et parfois, si elles sont propriétaires, ça va, quoi. Mais si elles sont locataires, et puis je reprends le cas de figure de la montagne, on est obligé d'avoir une voiture. Après, on a d'autres cas, je veux dire, de personnes. Là, je pense à une famille où l'enfant a eu des problèmes de santé, et donc ils ont quitté la région de Toulon et ils ont cherché des logements sociaux pas trop chers. Et donc ils ont vu en Ardèche logements sociaux. ils étaient contents, ils disaient on va vivre en Ardèche, mais bon, quand on se retrouve là-haut à Coucouron, j'irai pour retrouver du travail, pour donc ça part d'un bon sentiment pour ces enfants, même des familles qui sont parties, je dirais, dans la montagne pour la sécurité, pour leurs enfants, parce qu'ils avaient peur dans les avec ce qu'on voit en ce moment, j'irai dans les grandes villes, et ils ont quitté une sorte de misère pour une autre misère. C'est on a vraiment toutes sortes de cas de figure, hein. C'est pas juste des gens qui ne travaillent pas, ça peut être des cas comme ça un peu.
Vraiment beaucoup de cas, et on l'entend pour vous qui faites notamment les inscriptions, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des statistiques, il y a vraiment des... Ce sont des relations que vous entretenez aussi avec ces personnes au quotidien ou par semaine. D'ailleurs, comment ça fonctionne? C'est chaque semaine ou c'est ce que vous disiez pour les...
Nous, pour l'itinérance, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de temps qu'au centre. C'est-à-dire que quand on arrive là-haut, on prépare du café, on a des petits biscuits, tout ça, et on discute avec eux, on parle de choses et d'autres, pas obligatoirement que de leur situation. On peut parler, je veux dire, de l'actualité, et aussi, après, ça permet de mieux les connaître, et parfois, bon, de les aiguiller sur des aides qu'ils n'ont pas demandées, et qui peuvent avoir droit. Mmh. Et donc on est même en relation avec des assistantes sociales qui parfois se déplacent et les rencontrent pour essayer de trouver parfois des solutions à ces personnes.
Mmh. Oui, c'est très très important ce que vous dites. C'est pas une simple mécanique de tiens, il y a de la nourriture, tiens, je donne, voilà. Et ça va compléter un besoin. Mmh. D'ailleurs, les Restos du Cœur...
C'est pas que de l'aide alimentaire.
Exactement, c'est pas que de l'aide alimentaire. Il y a aussi des coiffeuses.
Oui, on a mis en place depuis 2 ans à peu près, ouais, même sur l'itinérant,
oui,
c'est très bien. Nous, on a mis en place ça depuis 2 ans, deux coiffeuses à la retraite qui ont décidé de devenir bénévoles et de venir coiffer les gens. Après, bon, ça fait un bien fou. Mmh. C'est, les gens sortent de là, c'est autre chose que l'aide alimentaire, parce que bon, les gens aussi... c'est de l'aide à la personne, c'est une estime de soi.
C'est primordial.
C'est primordial. C'est primordial. On aimerait faire beaucoup plus, mais bon, après, il faut avoir plus de bénévoles, peut-être pas, mais il faudrait ouvrir beaucoup plus le centre. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de... On a le café, la bibliothèque, on a les vêtements. Oui. Ça marche très bien.
Des couvertures, on avait un camping, je ne sais plus lequel pour ne pas le citer, quoi, mais qui nous avait donné tout un lot de couvertures. Donc nous, je sais qu'on en a distribué une trentaine là-haut sur le plateau. Quoi. Donc,
Heureusement qu'on a ça.
Donc c'est pas, comme vous dites, que l'aide alimentaire. Et je crois que c'est important aussi, parce que ça permet aussi où les gens se sentent à l'aise, et parce que parfois c'est difficile. On a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas le choix. J'ai fait une inscription la semaine dernière sur une jeune femme qui a repris un petit bar dans la montagne, et elle vit de rien. Et là, elle avait plus rien. Donc, en plus, bon, elle a récupéré un logement qui était mal isolé, donc elle a des factures de fou d'électricité. Et elle me dit, c'est pas le genre de personne que j'aurais cru venir, quoi. Elle est auto-entrepreneur, c'est dans la restauration, mais elle a pas le choix. Elle est obligée de venir, ou sinon elle ne mange pas, quoi. Et je trouve ça triste parce que, comme je dis, il y a des gens aussi qui veulent réussir et qui n'y arrivent pas, et heureusement qu'il y a les restos, je dirais, pour leur tendre la main. Et puis après, on a des gens qui viennent pendant une saison, et puis après qui viennent nous remercier, dire c'est bon, j'ai trouvé un boulot, ou ça va mieux, j'ai plus besoin de vous, mais je voulais vous remercier de ce que vous avez fait pour nous, quoi.
Ouais. Donc ça fait du bien,
c'est très valorisant. Voilà.
Oui, c'est très valorisant. J'aimerais, avant de clore l'émission, évoquer avec vous ce qu'en dit une anthropologue, Bénédicte Bonzi, qui est l'autrice de « La France qui a faim », sous-titré « Le don à l'épreuve Des violences alimentaires, voilà le titre exact. C'est une anthropologue qui a passé 5 ans dans les Restos du Cœur, qui a participé et qui en vient au même constat, enfin que vous tous, la sidération de voir des gens toujours venir alors que c'était censé être simplement un système d'urgence, comme là le dernier exemple que vous avez présenté. Il se trouve que dans une situation, des personnes ont besoin le temps voilà, d'une saison de 2 mois, et puis hop, ça repart. Juste un système qui fonctionne pour l'urgence, alors qu'on se rend compte que finalement, ça s'est institutionnalisé. Et ce que met en avant cette anthropologue, donc Bénédicte Bonzi, et je voulais vous soumettre ses pensées, voir comment voilà, ça résonne en vous, pour pousser un petit peu plus loin. Elle ne veut pas du tout, bien au contraire, critiquer les bénévoles, puisque c'est fondamental et les bénévoles sont absolument essentiels aujourd'hui à ce que la situation ne s'effondre pas complètement. Mais elle met en avant le fait que ça vient finalement pérenniser un système alimentaire qui est défaillant, avec des producteurs qui ne peuvent pas vivre de leur travail, avec des personnes qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité. C'est-à-dire que ça pérennise un système qui conduit à la surproduction. Les distributeurs, finalement, savent que le surplus qui ne sera pas vendu, eh bien, sera donné. Les producteurs, alors un système de production, évidemment, un système de production va continuer de produire tout en, voilà, pour vendre à une grande distribution, ne se posant pas forcément la question de la qualité et de la pérennité de ce qu'ils produisent, et tout ça continue de faire fonctionner avec un système avec en bout de chaîne, malheureusement, le don. Qui aujourd'hui, je le répète, et c'est ce qu'elle dit, est absolument nécessaire, mais qui finalement conduit à pérenniser ce système.
Est-ce que... Ça, c'est plus les pouvoirs publics qui... voilà, c'est pas des... Nous, à notre échelle, à nous, je veux dire, sur... voilà, c'est, on est... Après, vous avez raison, mais il faudrait mettre en place une politique différente. Et mais là, actuellement, c'est pas... C'est pas le cas, quoi.
On aimerait bien ouais. Ne plus être là.
Voilà, c'est sûr. Et
oui, j'imagine bien.
C'est pas le cas depuis quelques années, quand même. Hein. Vu l'augmentation qu'on a au niveau de la précarité dans tous les domaines pour l'aide alimentaire, c'est impressionnant. Ça fait 4 ans qu'on augmente à peu près entre 25 et 30%, comme je disais tout à l'heure. Donc, bon, il y a bien quelque chose qui va pas. Et on peut pas s'arrêter.
Effectivement, il y a bien quelque chose qui va pas, alors que 11 millions de tonnes de déchets alimentaires, enfin de gaspillage alimentaire, qui pourraient justement nourrir ça. Donc quelque chose ne fonctionne pas. Ouais. C'est pas une question de production et de en face de quelqu'un qui pourrait obtenir ou recevoir cette alimentation. Mais vous disiez il faudrait changer tout le système et c'est pas pour maintenant peut-être. Mais je voudrais vous soumettre des expérimentations qui sont en cours, dont on a déjà parlé ici dans L'Onde Curieuse, qui s'appuie sur une sécurité sociale de l'alimentation, qui, voilà, au niveau national, a commencé à circuler depuis peut-être 4 ans. Cette sécurité sociale alimentaire, c'est de pouvoir permettre à chacun, tout au bout de la chaîne de l'alimentation, de pouvoir vivre, pour ceux qui produisent, vivre décemment de ce qu'ils produisent, et pour les consommateurs, d'acheter des productions qui soient vertueuses, respectueuses à la fois des producteurs et de l'environnement. Cette sécurité sociale alimentaire se propose que chaque citoyen puisse avoir 150 € sur une sorte de carte vitale de l'alimentation, 150 € que l'on puisse dépenser auprès de producteurs conventionnés, et conventionnés selon des critères, c'est-à-dire précisément qu'ils soient respectueux dans l'environnement, respectueux de mode de production, etc. En Ardèche, il y a un début de sécurité sociale alimentaire. C'est donc les CIVAM et la Confédération paysanne qui sont au début de cette réflexion. Ils aimeraient aussi faire en sorte que les Restos du Cœur, et comme toute autre association hein, qui promeut de l'aide alimentaire, soit participante pour en tout cas inclure, voir comment c'est possible de pouvoir donner aussi à des personnes qui sont dans le besoin une alimentation de qualité, pas seulement du pâté qui va boucher les artères.
Mais là, on en revient à ce que je dis, quoi. C'est, nous, on n'est qu'une association, et une association, on est dépendant du système. Si on peut mettre ça en place, il faudrait que ce soit les pouvoirs publics qui mettent ça en place. Là, nous... On est un peu coincé. On n'a pas de décision et surtout nous ici en Ardèche. Alors après l'idée est belle, mais il y a tellement de bonnes idées qui malheureusement ne voient jamais le jour.
Mais par contre on peut dire aussi qu'on est quand même beaucoup aidé au niveau des dons, au niveau des agriculteurs. Certains ont quand même fait pas mal d'efforts. De venir nous donner par exemple des kilos de pommes de terre, des surplus, mais on est demandeur par contre de ça. Et le problème étant, c'est que on a connu aussi des gens qui glanaient, mais par contre nous on peut pas acheter. Comme disait Olivier tout à l'heure, les Restos du Cœur, ça reste des entités dans le département qui sont rattachées au niveau départemental à l'entité départementale, mais et qui gère le financier. Donc nous, on peut rien acheter. Mmh. Et des fois, c'est un peu dommage parce que je sais que certaines glaneuses sur, je me rappelle plus très bien où là, mais qui nous proposaient des produits de très très bonne qualité. Le problème étant, on peut pas les financer.
Après, ça serait génial qu'un jour l'État décide de parfois au lieu de donner des subventions aux agriculteurs pour produire plutôt de faire une de produire à perte de proposer une partie de leur production à pouvoir reverser au Resto du Cœur et avoir par exemple des avantages fiscaux ou même des aides financières. Mais pour l'instant, faudrait que quelqu'un là-haut dise, tiens, on va essayer de mettre en place un autre système qui serait bénéfique pour les agriculteurs et pour les Restos du Cœur, pour la distribution. Et comme vous dites, d'avoir une alimentation, parce que malheureusement, c'est vrai qu'on distribue pas que des produits, de qualité, quoi. Faut l'avouer. Oui. Mais bon, vous savez, quand les gens ont faim,
bien sûr.
Voilà, ils vont pas faire les difficiles. Mais c'est vrai que nous, il y a certains produits que moi, j'ai honte aussi, parfois, à donner, quoi. Mais bon.
En tout cas, il y a une initiative de ce type ici en Ardèche. Et donc, qui peut être expérimentale. Donc, peut-être essayer des choses avec. Cette expérimentation de sécurité sociale alimentaire, peut-être à se renseigner auprès des CIVAM et la Confédération, paysanne.
Oui.
Peut-être n'allons-nous pas réussir à changer le monde dans cette émission, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de la situation des Restos du Cœur ici en Ardèche et dans le bassin d'Aubenas.
Merci beaucoup.
À vous deux. Je rappelle, les Restos du Cœur, vous êtes ouverts aux dons financiers, dons
alimentaires,
oui. Et donc que ce soit pour les individuels ou pour les producteurs aussi.
Tout à fait.
Voilà, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
C'était donc un reportage fait par Sophie sur l'antenne des Restos de Cœur d'Aubenas. Nous, on se retrouve demain dans l'Onde Curieuse à midi. Vous la retrouverez aussi en rediff aujourd'hui à 17h. On vous souhaite une bonne journée sur Fréquence 7 et ailleurs. Et pour la suite des programmes, vous retrouverez à 13h les Jardins Suspendus d'Olivier Houry. À 19h, l'écho du parquet, la nouvelle, une des nouvelles émissions de musique folk sur Fréquence 7. Et à 21h, l'excellent DJ Steph pour son Hexagone Live. À bientôt sur Fréquence 7 et bonne journée de soleil à vous.